Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Pour la deuxième semaine, nous sommes ici à la rue de Tassali, à Toulouse, pour vous parler d'un événement dans le monde de l'édition, puisqu'il s'agit de la publication de l'anthologie de la poésie mondiale, anthologie composée par Nicole Dalia, directrice des éditions Caractère, qui sont l'éditeur de cette magnifique anthologie, Sylvestre Clancier et Jean Portante. Alors, la semaine dernière, nous avons donné un petit éventail des poètes du monde entier qui sont publiés dans cette magnifique anthologie qui a été saluée par toute la presse, en particulier par le Figaro littéraire. Je vous invite à regarder sur Internet, tous les articles concernant cette anthologie, également cette anthologie dont vous avez la publication sur notre site Les Poètes. Les poètes sans accent, point site. Voilà. Alors, nous avons avec nous Nicole Dalia, donc qui est la directrice des éditions Caractère et qui est l'instigatrice de cette anthologie et qui va nous expliquer quelles sont les circonstances qui ont valu cet énorme, énorme travail, puisque il a fallu rassembler donc les poètes majeurs du monde entier, qui sont chacun présentés avec une petite bibliographie et de belles illustrations et très souvent en bilingue, leur langue est le français. Nicole Dalia, bonjour.
Bonjour à tous les amis poètes de Toulouse. Bonjour Christian. Vous m'appelez à Caractère. Je suis entourée d'œuvres d'art, comme d'habitude. Sur les murs, des peintures poétiques abstraites de Christian de Sailly, très colorées et abstraites. Et sur les étagères, de très belles sculptures métalliques de Karl-Heinz Digner, pleines d'érotisme et de sensualité par leurs courbes. Comme toujours, art et littérature sont mêlés à Caractère et je poursuis cette route amorcée par Bruno Durocher dès les années 50 lorsque le jeune poète polonais a créé les éditions Caractère. Voilà, nous poursuivons la route et j'ai voulu pour les 70 ans des éditions Caractère, faire une publication importante qui marque, qui est du poids, et j'ai pensé à cette anthologie mondiale. J'ai donc invité mes amis, Jean Portante parce qu'il est directeur de la collection Cahiers Latins, où il a pris la suite de notre très grand et fidèle ami Claude Couffon, qui dès les années 50 était à côté de Bruno Durocher. J'ai prévu de vous lire un petit Lorca qui avait été publié en 1951 par les deux amis, donc, et après le départ de Claude Couffon et avec son assentiment, j'ai proposé Jean Portante à la tête de cette collection. Et puis mon vieil ami Sylvestre Clancier du Pen Club, qui connaît bien l'Europe centrale, je lui ai demandé de s'associer à nous, chacun ayant un domaine, l'espagnol pour Jean avec l'Amérique latine et pour Sylvestre la Slovénie, la Slovaquie, un peu le cœur de l'Europe. Et nous avons cheminé, le Covid est arrivé, nous avions déjà amorcé, j'avais déjà beaucoup travaillé, fait des listes de poètes que je pouvais prendre dans le fonds de Caractère, qui avait déjà un très beau fonds international, et puis j'ai comblé les lacunes, nous avons comblé les lacunes. Voilà.
Alors, si vous le voulez bien, Nicole Dalia, nous allons écouter Jean Portante, qui s'est exprimé sur cette anthologie, mais comme il était au Luxembourg, nous avons dû l'enregistrer.
Merci beaucoup,
nous l'écoutons.
D'être avec nous sur Radio Occitanie pour parler, pour la deuxième semaine, de l'anthologie de la poésie mondiale, une anthologie qui a été composée par Nicole Dalia, Sylvestre Clancier, et bien sûr Jean Portante, pour les éditions Caractère. Alors, c'est une magnifique anthologie dont nous avons parlé la semaine dernière, qui est brillamment illustrée, et où chaque auteur trouve là sa biographie résumée vraiment d'une façon de mettre. Et vous, Jean Portante, vous êtes un des contributeurs éminents donc, de cette anthologie. Et je crois que votre collaboration a consisté à traduire et à sélectionner les poètes espagnols, d'Amérique latine, latin. Et j'ai vu également, nous avons lu la semaine dernière, un poème que vous aviez traduit de l'allemand.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, oui.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord d'une façon générale de cette anthologie et puis du choix, de la sélection que vous avez fait des auteurs que vous avez traduits?
Ben écoutez, moi j'ai suivi la ligne générale hein, de cette anthologie quand on s'est retrouvé avec Nicole Sylvestre et moi-même donc pour la concocter hein, pour les 70 ans. Des éditions Caractère, on avait en fait deux lignes de conduite, mais peut-être ça a déjà été dit. Hein. L'une, c'était de prendre les auteurs que Caractère a publiés pendant toutes ces années, et l'autre, c'était d'élargir à des voix contemporaines, voilà, hein, qui peut-être potentiellement seront des auteurs après les éditions Caractère, hein, et surtout de grandes voix de la poésie mondial. Et donc, je me suis orienté par rapport à ça. Ce qui avait été déjà publié chez Caractère, bon, j'avais plus grand-chose à faire, hein, puisque, bon, moi, je suis, depuis un certain temps, j'ai créé une collection hein, qui s'appelle Les Cahiers Latins. Moi, je l'ai pas créé, je l'ai reprise de Claude Couffon, qui l'avait créé il y a très longtemps, et puis, bon, elle était un peu en veille, et avec l'accord de Claude, il était encore vivant à ce moment-là, on avait décidé de la remettre sur pied. Donc là, j'ai fait entrer un certain nombre d'auteurs de la littérature mondiale, mais cette fois-ci du monde latin. Et donc il y avait surtout le grand Juan Gelman, donc poète d'Argentine, hein, vivant au Mexique, très connu aussi en France, puisque il a aussi été dans la foulée, mais un peu plus tard, publié chez Gallimard. J'ai aussi mis le poète italien, puisque la latinité est beaucoup plus large que seulement la langue espagnole, et donc un poète comme Valerio Magrelli, par exemple, qui est quand même une des grandes voix d'aujourd'hui de la poésie italienne. Bon, ne pouvait pas manquer dans les cahiers latins et, a fortiori, pas non plus dans cette anthologie mondiale. J'avais aussi publié un livre de Luis García Montero, ça c'est un espagnol, une très grande figure aussi. Il est d'ailleurs en ce moment même le directeur général des instituts Cervantes à Madrid, donc il est très très reconnu. Bon, il y a d'autres poètes que j'avais dans ma collection, donc ceux-là, on les avait déjà. Et il fallait un peu élargir, et donc pour élargir, je suis allé voir un peu dans cette Amérique latine qui m'est très proche, et aussi en Italie, mais j'ai pas seulement, puisque j'ai plusieurs langues dans ma bouche et dans ma tête, étant luxembourgeois, donc j'ai allé fouiller du côté de la littérature allemande, dont j'avais déjà traduit des auteurs, notamment pour le Castor Astral, Ulrike Dresne, que j'ai donc mis dans cette anthologie, des poètes aussi comme Dos Grünbein, Volker Braun, donc de grandes, grandes voix. Je me suis dit, ben, il faut qu'elle soit dans cette anthologie. Donc, après aussi de la langue anglaise, l'un ou l'autre du portugais, parce que partout, il y a de grandes voix de la poésie. Voilà un peu l'esprit, comment j'ai contribué à cette à cette anthologie. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, il fallait traduire tout ça. Et donc, c'est mon apport majeur, disons. Hein. Bon, d'abord, il fallait les choisir. Ça, c'est facile. Bah, pas toujours. Et puis, il fallait traduire. Et ça, c'est toujours, disons, un défi.
Vous figurez vous-même... Vous figurez vous-même, bien sûr, dans cette anthologie, hein, représentant le Luxembourg. Et est-ce que vous auriez peut-être sur... est-ce que vous pourriez nous lire le poème qui vous est consacré, là, du descendez du
train? Alors, comme je suis venu à Paris, et que j'étais alors, sur Luxembourg, qui était très chargé, j'ai seulement le tome 1 avec moi, et moi je suis dans le tome 2, parce que... Oui. Mais je peux quand même dire un mot oui. sur... Oui. Moi, j'ai eu la grande chance de voir mon tout premier livre, quand j'ai commencé à écrire, ça c'était en 83, publié par Bruno Durocher. Donc, c'était Feu et Boue à l'époque, ça s'appelait comme ça, et donc ça explique ma présence, puisque je suis un auteur de caractère, et puis j'avais fait un autre livre avec caractère, donc, mais il y a d'autres poètes luxembourgeois, par exemple, la grande Annie Scholz, qui est quand même la grande dame de la poésie, et d'elle j'ai le poème ici. Peut-être vous aimeriez entendre.
Oui, tout à fait, si vous l'avez, bien sûr.
Elle écrit de tout petits poèmes, presque des aphorismes, et ils sont très très profonds. Hein. Donc c'est une dame qui est née en 1928, hein, vous voyez un peu, et elle est encore là, donc... Elle aussi a été publiée chez Gallimard entre-temps, elle a eu le Goncourt de la poésie, c'est quand même une très grande dame. Hein. Alors j'ai trois petits textes. L'un c'est « Parfois je ramasse un poème blessé qui meurt entre mes mains, je l'enterre et ma solitude s'accroît. » Au-dessus de moi, le ciel s'ouvre comme un autre pays. Les vaches maigres, sorties d'un rêve de Pharaon, continuent à se multiplier par sept. Et un troisième, entre une fuite et une autre, j'ai faim. En mangeant, je blesse le monde. Voilà, c'est vraiment très concis, mais très, très, très fort comme expression, avec une économie de moyens vraiment très très réduite, elle arrive à dire de grandes vérités du monde.
Et c'est une des tendances peut-être de la poésie d'aujourd'hui, hein. Concision aussi qui va vers l'aphorisme de plus en plus. Une poésie avec une langue qui se resserre. Qui se concentre. Voilà.
Tout à fait. Donc, je sais pas, moi, j'aurais aimé parler d'un poète qui me tient vraiment à cœur. Oui. Et ça, c'est le grand Juan Gelman. Donc très 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 grand, parce qu'il m'a beaucoup marqué. Je le connais depuis les années 80. Je l'ai beaucoup fréquenté, beaucoup traduit, et donc c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, entre autres qu'un poète ne peut écrire que dans sa propre langue. Donc il me disait toujours, moi je n'écris pas en espagnol, j'écris en gelman. Et d'ailleurs, il le dit même dans des poètes, hein, qu'il va helmaner dans ses textes. Et ça m'a été une grande leçon, hein, quand j'ai construit ce que j'appelais ma langue baleine. Hein, donc, je me suis construit une langue. Et ça, je le tiens de lui. C'est pour ça que je voulais lui rendre un hommage.
Avec grand plaisir.
En lisant un texte. Qui s'appelle Voyage. Hein. Je vais prendre celui-là. Il a eu droit à beaucoup, à un peu plus de pages, parce que c'est vraiment une très, très, très grande voix. Hein. Il a eu tous les prix du monde latin. que ce soit le Cervantes, que ce soit le Rulfo, que ce soit la Reina Sofia, donc c'est vraiment extraordinaire. Alors, voyage, chaise sur laquelle je m'assois peut-être, assiette, chemise et autres alibis, la vérité pure est que je ne suis pas là. La grande vérité est que je suis parti. Ou se peut-il qu'ils s'en soient tous allés, me laissant seul, avec moi-même et d'autres cauchemars, réels comme un trou profond, lourd comme un dieu? Voyons Juan, voyons Hellman, voyons les petits bouts de papier, comptons jusqu'à 100, les petits oiseaux chantent. En voyant, nous verrons que je ne suis pas là du tout, que sincèrement, je suis parti, qu'un Juan tient bon et qu'un Hellman ne pleure pas. Les assiettes, assiettes, les chaises, chaises, sans répit, les canailles.
Juan Hellman, oui. Nous avons souvent parlé de Juan Hellman, en particulier sur vos traductions, hein, pour les éditions Caractère. En tout cas, Jean Portante, nous serions aussi très heureux de pouvoir réaliser une émission sur le poète Jean Portante et peut-être continuer aussi à parler de Juan Hellman. Hein.
Avec donc, grand plaisir. Avec donc, grand plaisir.
À très bientôt pour cela et un grand merci pour votre participation donc à cette deuxième émission sur l'anthologie de la poésie mondiale des éditions Caractère. Merci beaucoup, Jean Portante.
Merci à vous.
Voilà, Nicole Gdalia, c'était donc votre ami oui. Jean Portante qui a parlé d'un poète qui vous tient aussi beaucoup à cœur.
Tout à fait. Hein? Juan Hellman me touche beaucoup parce que nous nous sommes rencontrés en 1978 à Paris lorsqu'il se cachait en tant qu'exilé. Et je faisais à l'époque de la radio, tout comme vous, et j'ai voulu l'interviewer. Et il m'a dit « Surtout pas, je suis en clandestin ici, en France. » Et alors, avec Bruno Durocher, nous lui avons dit « Bon, ben, au moins donnez-nous un poème pour la revue Caractère. » Et c'est ce qui a été fait. Donc, dès cette époque, nous avions Hellman dans la maison Caractère, et lorsque j'ai retrouvé Jean, je lui ai dit vraiment s'il y a un auteur que j'aimerais avoir en abondance dans son œuvre, ce serait Juan Hellman. Et c'est ce que nous avons fait avec plusieurs volumes de l'immense poète qu'est Juan Hellman. Alors je continue bien sûr cette voie internationale de la poésie qu'avait déjà amorcé Bruno Durocher, avec les traductions de langues de plus en plus lointaines, de plus en plus rares, de la poésie du monde entier. Et j'ai veillé à ce que cette anthologie représente les différents coins de la Terre et les langues les plus lointaines aussi. Je me suis efforcée de donner certains poèmes en langue originale lorsque la langue était rare et la traduction à côté, car je voulais vraiment donner voix à la poésie du monde. Alors, je poursuis cette route avec la publication récente d'une poétesse du Groenland, des neiges, Joan Navikjukan, avec Hyperboréal, c'est de la poésie vraiment des neiges que l'on fait fondre, etc. Et je voudrais vous lire une petite strophe de ce livre qui est récemment sorti. Sur le bord du monde, le monde qui a mal, une faille de neige et d'ombre. Elle y voit un sens que je ne vois pas. Rien, en fait, sur les bords des choses, dans le vent et les mouvements des animaux. Et tout le volume parle de ses grands-parents esquimaux, des traditions esquimaudes, de la neige et de la défiguration de cette terre par les Occidentaux. Un très très beau volume, Hyperboréal, traduit par Lambert Savigneux. Et notre récent volume encore, en attendant d'autres poésies, c'est du bulgare, Ivan Théophilov, grand poète bulgare, La géométrie de l'esprit. Très belle poésie aussi, traduite par Alitza Frison-Roche. Je peux vous lire un bout de poème. Oh, bon, le volume est tombé, mais il est accompagné de très beaux collages de Ralitza Frison-Roche, et à laquelle nous consacrerons une exposition en janvier. Alors, pour Théophilov, je vous lis une strophe d'un poème. En suivant le sentier, à l'heure où devient philosophe l'univers averti de la montagne, où le crépuscule, telle une fine bruine, bigarre la lumière, dans les espaces, accoudé pour méditer, tu entends « Bonsoir ». « Bonsoir », réponds-tu à l'homme inconnu. Et tu perçois l'effervescence antique, suprême de la nature, comme si, à ce moment précis, d'anciens Hélènes, les Hélènes, c'est les Grecs, hein, disposaient en ordre leurs statues, veillant à observer la géométrie de l'esprit. Très très beau recueil, accompagné de collages de Ralitza Frison-Roche, à laquelle nous consacrons en janvier une exposition et une soirée de poésie à Théophilov. Et aussi, nous avons publié deux volumes du New-Yorkais Amir Parsa, que je suis depuis déjà presque 20 ans, lorsqu'il est venu me voir à Caractère, avec un énorme volume de prose poétique Caboliero, en me disant, voilà, j'ai regardé les maisons d'édition depuis New York, avec lesquelles je me sens en affinité, et ses caractères. Alors je viens vous apporter ce recueil. Ce recueil, c'était un roman poétique. Et je me suis dit, oh là là, si je ne publie pas Amir Parsa, c'est comme l'éditrice de Joyce, c'est comme si je passais à côté d'un nouveau Joyce. Et j'ai publié Amir Parsa jusqu'à présent, avec deux volumes maintenant extrêmement importants, qui sont une sorte de récapitulation plus mûrie de son travail d'écrivain, de ce qu'est la langue, de ce qu'est la littérature. Et il se trouve que j'ai à côté de moi un jeune étudiant d'Oxford, Charlie, qui peut dire quelques mots sur ces textes qu'il a lus avec un immense plaisir et intérêt et dont il a parlé à ses cours à Oxford. Je vous passe Charlie.
Merci Nicole. Donc j'hésite d'essayer de définir trop clairement les termes indis d'Amir Parsa, puisque le rejet des catégorisations est l'un des principes fondamentaux du livre, mais c'est essentiellement l'expression de l'auteur de sa philosophie d'une nouvelle littérature mondiale. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus international, Parsa soutient que la littérature devrait le refléter. Donc il dit plus de catégories de genre, de nationalité, de langue, plus de territoire d'écriture. Et au contraire, la littérature devrait être quelque chose de constamment en route, qui ne cesse jamais de se redéfinir. Donc oui, ça c'est un petit résumé de cette œuvre. C'est grandiose et inclassable, mais oui, c'est ça.
Voilà, Charlie a été très succinct à cause du temps, mais je pense que pour les lecteurs et avec votre aide, vous pourrez permettre justement aux poètes, aux lecteurs de toulousains et d'ailleurs, de rentrer dans cette littérature extrêmement avant-gardiste, une littérature du futur qui se moque justement des barrières des langues, des barrières des pays, des barrières des genres littéraires, et qui mêle tout ça dans une création poétique totale, y compris même les supports de la langue. Il raconte comment il écrit dans l'Arizona sur un caillou que le sable et le vent vont effacer ou qu'il jette un caillou, il écrit sur autre chose, qu'il jette à la rivière. Et ainsi se poursuit la langue, la littérature, la poésie, avec des supports, des langues, des modalités extrêmement nouvelles, et je crois que c'est vraiment à découvrir. Alors sinon, bien sûr, le catalogue de caractères déjà touche le monde entier. Je ne sais pas s'il y a une région du monde qui vous ferait plaisir et pour laquelle je pourrais vous donner lecture ou découverte d'un poète.
Oui, alors, je voudrais quand même préciser que Amir Parsa est né en Iran en 1968, hein, le situer quand même dans le
merci,
temps de quelques
oui,
générations.
Tout à fait. Hein.
Et puis je voudrais reprendre juste avant de repartir sur les textes de l'anthologie, oui. Ce qu'il dit sur l'écriture. Hein. Il dit une écriture et des textes qui facilitent une appréhension du monde et de soi. Comme toujours, le moi, les moi, sont complexes et toujours en flux. L'écriture, spécifiquement des œuvres littéraires, permet au sujet écrivant de réexaminer son identité, les masques, les avatars, les manières d'être dont il a hérité, et de tout mettre en question, se libérer à travers l'œuvre et à travers les procédés de création d'œuvres, des noms donnés et des catégories. La littérature, on entend souvent « is all about words », elle a tout à voir avec les mots. Je répète, la littérature « is all about the lack of words », elle a tout à voir avec le manque de mots et la création de nouveaux univers à travers l'œuvre. Voilà ce que a dit votre...
C'est magnifique, voilà. Je suis très touchée par cette lecture attentive que vous avez fait, parce que effectivement, toute la pensée théorique, si on peut dire, d'Amir Parsa s'y trouve, et c'est à partir de ce constat qu'il écrit lui-même, dans La Nouvelle Épopée, son volume 2, qui écrit une nouvelle épopée à partir de ce constat de la volatilité de la langue, des supports de la langue, etc., que vous avez énoncé.
Alors, le titre de ces deux recueils, c'est Litera Mundi, aux éditions Caractère, bien entendu, prolégomène à une nouvelle littérature mondiale, l'œuvre indomptée, il y a deux tomes de Amir Parsa. Voilà. Nous en reparlerons, voilà. Hein, parce que je crois que effectivement,
c'est magnifique effectivement, Amir Parsa est iranien d'origine, mais il a étudié à New York, aux États-Unis, dès l'âge de 10 ans, car ses parents ont eu la sagesse et la possibilité de s'exiler dès cette époque. Et il a donc étudié aux États-Unis, à Columbia, etc. Et il poursuit une belle carrière pour avoir travaillé au MoMA de New York et maintenant au Pratt Institute, où il s'occupe des études pluridisciplinaires. Voilà. C'est encore une pépite que Caractère recèle
oui,
et qui est venue à elle par tout seul, par la connaissance de caractère depuis le lointain.
Voilà, nous reparlerons de cela parce que c'est quand même un des phénomènes, je pense, de la littérature mondiale.
Tout à fait,
Amir
tout
Parsa,
à fait.
Donc,
et je suis heureuse que nous ayons pu faire cette petite amorce aujourd'hui et avec une très très belle et très juste présentation de votre part. Et c'est une amorce, nous pouvons continuer plus tard pour une autre émission si c'est possible.
Absolument, c'est nécessaire.
Et même depuis New York avec Amir qui peut s'expliquer. Alors Amir est venu au mois de juin lorsque nous avons sorti ces deux volumes. Il a eu tout de suite une soirée à la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque de poésie qui se trouve dans la quatrième, voilà que j'oublie le nom, une très belle soirée. Et puis sur le marché de la poésie, où il était aussi, où sur notre stand avec avec ses volumes très avant-gardistes.
Voilà. Bien, donc à suivre.
À suivre.
À suivre. En
voilà.
Tout cas, d'ores et déjà, on signale Amir Parsa, donc un événement dans
le monde littéraire en général. Et je me suis souvent comparé un petit peu à l'éditrice de Joyce qui a découvert quelqu'un hors du monde et hors de la littérature et qui l'a fait peu à peu cheminer. Et j'ai l'impression qu'avec Amir, quand j'ai publié son premier texte, Cobolero, que je publiais un nouveau Joyce.
À suivre donc. Nous allons reprendre dans l'anthologie. Si vous le permettez, je voudrais parler de nos confrères ici à l'Académie des Jeux Floraux, qui est Yves Namur.
Oui.
Yves Namur, donc, qui est médecin,
oui.
qui est éditeur hein, également, le Taillipré.
Oui.
Et qui est né.
Et qui est dans l'anthologie, bien sûr.
Voilà, qui est dans l'anthologie. Il est né en 1952. Et il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Il est actuellement le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique.
De Belgique,
voilà.
Oui.
Il est membre de l'Académie Mallarmé et il est membre de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, puisque nous avons eu l'honneur de le recevoir il y a quelques mois. Voilà. Et il est venu d'ailleurs, nous avons eu le plaisir de pouvoir partager une journée et un repas ensemble. Alors, il fait partie évidemment de cette anthologie.
Anthologie, bien
voilà.
entendu.
Donc, si vous le voulez bien, je vais lire son poème qui est à la.
Avec plaisir.
C'est un poème inédit. Un dictionnaire. La vie est en somme faite de petits restes qu'on ramasse jour après jour, prudemment, comme ces miettes qui traînent sur la table. Il faut en soi peu de choses pour vivre. Si possible, une maison et un jardin. Peut-être des géraniums à la fenêtre et des oiseaux qui se consolent de l'hiver et des haies perdues. Un arbre, une étoile et une femme qui n'attendent pas de réponse à leurs questions. Et peut-être aussi un livre de poésie ou ce vieux dictionnaire Larousse, ouvert depuis toujours à la lettre A, comme amour ou aimer. Voilà, Yves Namur.
Très beau, oui, voilà. Oui, c'est un très très beau poème et que je suis heureuse d'avoir pu publier dans cette belle anthologie, qui fut d'ailleurs une aventure quotidienne pendant 2 ans, le Covid m'ayant aidé à une complète solitude et à un travail à distance depuis mon bureau ou mon bureau personnel, puisque je venais peu à caractère, mais que j'avais Alex, mon bras droit, qui a travaillé avec moi, il n'est pas là aujourd'hui, il ne pouvait pas. Un jeune étudiant qui a fait ses études à Montréal et qui est maintenant français et qui m'aidait, lui à caractère et moi à la maison. Nous avons concocté, rassemblé pendant 2 ans tous ces textes du monde entier. Et je disais, ah, mais il me manque quelqu'un de l'Estonie, ou il me faudrait quelqu'un d'Afrique du Sud. Et je retrouvais à la fois dans mon fond, et à la fois par des recherches qui étaient laborieuses, je trouvais la perle rare que je cherchais. Voulez-vous que je vous lise un poème du Mali, d'une jeune femme?
Oui, et Nicole Gnalias, si vous le voulez, il ne faudrait pas oublier peut-être de lire un poème de Bruno Durocher quand même.
Ah, volontiers, sauf que je ne l'ai pas préparé. Ah. Alors c'est à vous, vous qui avez bien connu Bruno Durocher, qu'il revient de lire un poème de Bruno Durocher.
Je ferai une émission qui sera consacrée entièrement à Bruno Durocher.
Voilà. Merci.
Voilà.
Si nous publions cette anthologie, c'est grâce à lui,
oui.
Puisque nous poursuivons sa tâche. Mais je lirai tout de même ce que j'ai mis au dos de ce livre. Le douanier me demande mon passeport, je lui montre le ciel.
Oui.
Bruno Durocher. Oui. Et encore ce qu'il écrivait avec beaucoup de plaisir. Homme de toutes les langues et de toutes les couleurs, je me déclare votre frère. Voilà, c'est l'esprit qui a conduit à faire cette anthologie, c'est-à-dire une œuvre de fraternité, de paix, d'amitié entre les poètes et les peuples.
Voilà.
Ça a été la force qui m'a guidée durant tout ce travail. Je regrette que notre ami Sylvestre n'ait pu venir parce qu'il est souffrant, mais lui a contribué à la partie européenne, Slovénie, Slovaquie, un peu Roumanie aussi, qu'il connaît bien, où il a beaucoup d'amis et où je suis allée aussi invitée. Et puis, voilà, le reste du monde est là sous nos yeux. Par exemple, je peux vous lire de Radna Fabias, parce que c'est nous qui l'avons introduit en France, une poétesse des Caraïbes néerlandaise, avec elle est très, qui a reçu de très nombreux prix et qui est très, très libre dans son écriture. Jeune mariée, combien de femmes j'ai toujours su que comme bien des femmes, j'ai toujours su que j'épouserais un homme. C'est tombé sur un noir, car ça me paraissait mieux assorti à ma robe, question de contraste. La bénédiction s'est déroulée dans une église où l'on professe une foi derrière laquelle je ne me range pas. À l'image de toutes les femmes présentes, le prêtre portait un voile blanc. Son prêche s'est terminé par la question de savoir qui allait appeler la police. Sur l'autel des objets que je connaissais de mon enfance, un cactus, des charbons ardents, une hache pour sarcler le chien dent et un animal mort, probablement un chien errant. Le sol était couvert de farine de maïs, l'intérieur rappelait un établissement de plage, l'encens embaumé la nuit de Noël. Une main a tracé à l'eau de mer une croix sur ma tête couverte de cendres. J'ai promis l'éternité dans une langue que je ne parle pas. Je n'en avais appris que le simple bout de phrase en question. Voilà. Elle a reçu de très nombreux prix aux Pays-Bas, où elle a été publiée et où elle vit actuellement.
Alors, si on n'a pas
et pu... j'ai eu le plaisir de l'introduire en France. Il y a aussi de la poésie ouïghour, de la poésie du Bhoutan, de la poésie du Sahara, de Awad. En langue amazigh, comme je vous disais, j'ai voulu représenter le plus de langues possible. Qu'est-ce que vous aimeriez que je lise?
Alors, je disais, on ne va pas lire un poème de Bruno du Rocher parce que on va lui consacrer une émission.
Volontiers.
Plus ample. Mais par contre, si vous le voulez bien, il y a un de ses amis un de ses grands amis, c'était Jean-Paul Mestas.
Oui.
Voilà. Je crois qu'ils ont voyagé ensemble, hein, si je me souviens bien. Ce
nous voyagé par l'esprit et l'amitié, oui.
Oui. Oui. En tout cas, ils étaient très proches.
Hein. Oui, non. Je veux dire, ils n'ont pas fait de grands voyages dans l'espace, mais ils ont fait des voyages dans l'esprit, oui, et la poésie.
Et donc, il a accompagné Bruno du Rocher pendant très longtemps.
Si, plusieurs années, en effet, c'était un grand ami de nous deux, oui.
Et il a eu une action donc, qui était en faveur des Juifs de l'URSS à l'époque, hein. C'est bien ça.
Absolument.
Hein. Voilà. Et également, il a fait partie des gens qui ont dénoncé ce qui se passait en Argentine en 1976.
Tout à
Jean-Paul
fait,
Mestas.
Tout à fait.
Voilà. Et il y a un poème qui a paru dans la revue Caractère,
hein. Oui.
C'est Homère aveugle. Si vous le voulez bien, on va le lire,
oui,
ce poème.
Ah oui, volontiers.
Homère aveugle de Jean-Paul Mestas.
Oui, merci beaucoup.
Les dieux morts voyagent pour l'éternité à travers le blanc. Ils ont un bras en écharpe et la paupière basse. Un front marqué des souvenirs et qui sonne à travers le temps. Et surtout, non plus qu'un pauvre pouvoir comme celui des voyageurs sceptiques ou celui des conteurs de lèpre. Les dieux morts s'en vont en troupeau de chats sauvages sur des routes qui ne finissent jamais, jamais, sinon devant un furoncle, et ils appellent au secours le silence, encore le silence qui les cloue sur de vieilles portes cochères, simplement qu'elles les libèrent du besoin de penser et de l'envie de raisonner. On dirait qu'ils ont cédé l'espérance au vent maigre du dessous, placé leurs économies de vertus cachées au vent du vent et perdu la boussole en conjuguant le sort fini des dieux morts. Où sont l'arbre, le parchemin, le style, où les cailloux confectionneurs d'étincelles, où les aimables comporteurs de confusion? Tout est en ordre. Par derrière, tout s'explique avec un soupçon de réserve à l'envers, avec un arpent de complaisance installé au milieu des champs taillés pour un unique laboureur suivant le pacte ou la leçon. Rien ne fut tant précoce que la fin, sans doute à cause des alliances incertaines, comme des regards qui commencent par un point fixe pour faire ensuite des impasses entre les couleurs et les sons, puis s'égarer. Que sont devenues la plupart des ombres? Il n'y a pas si longtemps, les soldats et les guérisseurs se partageaient le petit monde. Ils échangeaient une île contre un port, une principauté contre un javelot. On les voyait chercher l'essentiel dans les entrailles de la mer, avant de peser le pour et le contre, de la même façon que les danseuses étourdissantes mais fidèles qui faisaient de leur corps un temple parfait. Et la poésie profonde était le chant de ces corps, la musique inquiète mais bouleversante de ces affrontements, de ces hésitations, de cette dure clairvoyance. Voilà le ton de Jean-Paul Mestas.
Oui. Très beau.
Je me souviens dans la fin des années 70, oui. 80, de lire dans la revue Caractère Jean-Paul Mestas.
Oui, oui, Jean-Paul Bruno Durocher, Jean-Paul Mestas. Un compagnon oui. de Bruno Durocher, un ami affectueux très proche oui. aussi de moi, de nous, avec sa compagne Christiane. Et nous avons cheminé ensemble plusieurs années. Oui.
Alors là, c'est une poésie lyrique, hein. C'est pas du tout une poésie resserrée, comme oui. nous a parlé Jean Portante tout à l'heure, hein.
Oui.
On est là, au contraire, dans le flux d'une parole qui se libère et qui
oui.
nous entraîne, qui est extraordinaire, quand même.
Oui.
Hein. En tout cas, dans l'oralité et pour la radio, ce sont des textes magnifiques, ça.
Que tu lis très bien. Oui.
Voilà. Et puis il y a Frédéric Mistral, on va quand même parler de
Alors,
Frédéric
oui,
Mistral.
Alors oui, c'est une Ici, initiative que j'ai prise, oui. parce que j'ai eu la chance que l'on m'ait proposé de publier l'œuvre de, son admiratrice chilienne,
oui. Gabrielle
oui. Mistral. Voilà. Une œuvre magnifique, Absolument. Une femme exceptionnelle. Ah, oui. qui avait très jeune, avant d'être poétesse, avant d'être écrivain, qui avait sillonné le midi de la France, et elle était très admirative et très touchée par cette région, et par la poésie de oui. Frédéric Mistral. Si bien que quand on m'a proposé cette très belle anthologie de Gabriela Mistral, qui est magnifique, j'ai tout de suite pensé à lui donner l'écho de Frédéric, qui est très oublié, et de publier de façon bilingue Frédéric Mistral avec cette langue doc, oui. cette langue qu'il voulait préserver comme effectivement un joyeux, un joyau précieux, puisqu'ils étaient toute une confrérie à sauver la langue doc.
Alors, il a eu le prix Nobel en 1904, et oui. il n'est pas oublié à Toulouse, puisqu'il y a une magnifique statue de oui. Gabriel Mistral, Frédéric Mistral, dans les allées importantes de notre ville, et qui porte d'ailleurs son nom, les allées Frédéric Mistral.
Ouais. Ah, il le mérite parce que son œuvre en langue régionale qui est à sauver, oui. Oui. Là, toutes les langues sont très précieuses à sauver. D'ailleurs, je signale que j'ai vu avec plaisir l'UNESCO mettre un programme sur les langues justement orales, etc., qui sont à sauver. J'y pense depuis longtemps et j'essaye de le faire depuis longtemps, puisque dans l'anthologie, j'ai mis aussi des poèmes en breton.
Oui.
Voilà. Et donc, des poèmes en langue d'oc, en langue... c'est des choses qui me touchent beaucoup. Oui. La préservation des langues. Claude Agege disait qu'il y avait un drame dans le monde, que toutes les 5 minutes, il y avait des langues qui se perdaient. Et une langue qui se perd, c'est un peuple qui se perd, c'est un peuple qui meurt. Et je suis restée très sensible à cet échange que j'ai eu avec le grand linguiste Claude Agege il y a déjà quelques années. Et j'essaye à mon niveau, comme je peux, de préserver les langues, de les honorer, de les voilà, de leur donner la parole.
Il faut rappeler que les éditions Caractère ont publié des olivades.
Absolument, les voilà, olivades, justement, que j'ai choisi.
Signalé. On l'a signalé.
Oui, de publier en regard de Gabriella.
Oui.
Voilà, très beau volume que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et qui m'a rappelé d'ailleurs, enfin, lui saigner à une période où on jouait du Frédéric Mistral au théâtre. C'est des choses à préserver qui sont notre trésor, notre humanité.
Alors, si vous le voulez bien, nous allons parler d'une dame maintenant, parce que nous avons fait une émission sur elle. Il s'agit de Dalia Rabikovitch. Donc là, on part en Israël.
Oui.
C'est, je pense, les éditions Le Vent de Michel Écarivial qui avait publié.
Oui.
Et nous avons eu le plaisir donc de faire une émission sur Dalia Rabikovitch.
Je crois qu'elle est... très grande poétesse israélienne,
voilà. Voilà. Disparue en 2005. Hein.
Oui. Voilà. Et... j'avais été une pionnière lorsque j'ai publié en 1984, ne sachant pas l'hébreu, et toujours, d'ailleurs, sauf très mal, une anthologie de la poésie hébraïque, Chant d'Israël. Et en fait, c'était un travail de compilation que Bruno Durocher m'avait demandé de faire. Et à travers des anthologies anglaises, enfin étrangères, dans des langues que je pouvais lire, j'ai cherché les poètes les plus importants pour constituer ma liste. Et ensuite, j'ai trouvé des traducteurs. Et Dalia Rabikovitch y figurait bien sûr. Et cette grosse anthologie de 400 pages qui s'appelle Chant d'Israël a été une référence pendant des années pour les étudiants jusqu'à présent. On me demande l'autorisation. Récemment, l'Université de Paris 3 m'a demandé l'autorisation de publier du Léa Goldberg qui se trouve dans cette anthologie. Voilà. Et Dalia Rabikovitch, bien entendu, aussi très grande poétesse que mon confrère et ami des éditions du Levant, avec qui j'ai d'ailleurs un projet à venir, qu'il a entre ses mains, a publié.
Michel Écarivial, qui a publié aussi en 1981 ou 82 par Bruno Durocher.
Oui, lui-même. Tout à fait.
Donc Dalia Rabikovitch qui fait partie bien sûr de cette anthologie.
Oui.
Voyons qu'est-ce que j'avais. On peut partir aussi à Port-au-Prince, hein, en Haïti, avec les Trouillot, Evelyne et Lionel Trouillot.
Oui. Hein.
Peut-être.
Oui. Et puis un jeune poète aussi dont j'ai plusieurs livres. Voilà que je n'ai pas la page de ses poèmes, mais enfin on peut dire que dans le fond déjà de caractère il y a un peu tout le monde, c'est-à-dire que j'ai souvent eu à reprendre des poètes de nos collections et bien sûr d'autres que je n'avais pas, comme des poètes en langue amazigh ou d'autres de la langue du ouïghour, etc., que j'ai ajoutés et qui sont dans cette anthologie.
Voilà. Lionel Trouillot, le poème de Lionel Trouillot est en bilingue aussi, c'est-à-dire en haïtien et en français.
Oui.
Voilà, il y a Tristan Tzara. Alors Tristan Tzara qui représente à la fois la Roumanie, la France,
oui,
mais qui à nous est très cher ici à Toulouse, parce que Tristan Tzara est celui qui a fondé l'Institut d'études occitanes. Voilà. Ce que ne savent pas d'ailleurs beaucoup de Toulouse.
C'est vrai,
que
moi c'est je le sais.
Tristan Tzara,
oui,
qui a fondé ça à Toulouse. Oui. C'est le premier donc à s'être engagé pour la langue occitane, la langue doc. Voilà. Tristan Tzara, oui, qui aimait beaucoup Bruno Durocher, je me souviens.
Oui, c'était un proche, ah, oui, de Bruno Durocher.
Oui.
Et ils ont fait deux ou trois livres,
oui,
et notamment de très beaux livres illustrés par Sonia Delaunay.
Ah.
Qui sont à la Bibliothèque nationale chaque fois qu'il y a des expositions, etc. Puisque malheureusement, au fil des ans, nous avons perdu beaucoup de nos très beaux livres accompagnés d'œuvres de très grands artistes du XXe siècle. Là, le Centre Pompidou va faire une exposition Germaine Richier. Et ils m'ont demandé très récemment l'autorisation de publier la préface de Jean Paulhan, que Jean Paulhan avait donné à Bruno Durocher pour un petit catalogue sur Germaine Richier qu'il avait publié et sans doute aussi exposé, car Bruno Durocher avait, comme maintenant, à côté de son atelier à la rue Gillecoeur, un lieu d'exposition où il exposait des peintres comme Picasso, qui n'était pas encore aussi célèbre, qui avait accompagné de ses dessins quelques livres, et d'autres artistes qui sont devenus les très grands du XXe siècle, dont Germaine Richier.
En 1982, je crois, quand j'avais été allé voir Bruno Durocher, j'ai passé une semaine,
oui,
et il y avait une exposition de Hubach.
Ah oui.
Il y avait une exposition, oui, du Hubach. Et puis, il venait de publier le Grenier des Caravanes. De,
oui.
Voilà.
Très beau recueil aussi, voilà. Grenier des Caravanes.
Et d'Hugues Berrimont, donc.
Oui.
Et dans l'avion qui me ramenait à Toulouse, je lisais le Monde, et je vois, en gros, Hugues Berrimont venait de décéder.
Oui, c'est vrai qu'il a à peine profité de son,
oui,
livre,
oui, oui,
Grenier des Caravanes. Alors, la dernière édition était accompagnée de, oui, d'œuvres de Roger
Toulouse, magnifique. J'ai
très
eu le plaisir,
belle.
Oui, oui, très très,
oui,
beau livre.
Avec très beau livre.
Les gravures de Roger Toulouse.
Absolument.
Voilà. Oui, je me souviens très bien d'avoir feuilleté ça, oui, pendant
alors, j'avais les gravures chez, oui, moi de, oui, Roger Toulouse. Et puis, ils ont fait un musée Roger Toulouse,
oui,
et je les leur ai rendus pour que ces gravures, oui, soient au musée Roger Toulouse.
Nicole Gdalia, merci beaucoup. Le temps nous rattrape.
Oui,
donc nous reparlerons de tout cela, bien entendu, de cette anthologie, qui est un événement, hein, éditorial, cette anthologie,
merci,
de la poésie,
oui,
mondiale, hein, aux éditions Caractère. Nous reparlerons donc, nous ferons une émission sur Bruno Durocher quand même, et aussi bien sûr sur Amir Parsa. Alors je rappelle, Amir Parsa, Litera Mundi, aux éditions Caractère, deux très beaux volumes qui vous coûteront chacun 23 euros. Voilà.
On peut faire une émission en direct avec New York. Hein. Amir Parsa peut très bien se brancher et répondre directement et participer à l'émission.
Très bien. Merci beaucoup.
Voilà.
Nicole Dalia, et à très bientôt.
Merci infiniment.
Merci.
Et toutes mes amitiés aux auditeurs poètes de Toulouse.
Merci
dont
beaucoup.
Je connais un certain nombre. nous connaissons.
Merci beaucoup.
À bientôt. Merci.
Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons. Mène à l'écoute de Radio Occitanie à distance.